Cette semaine, quatrième semaine du temps de carême, nous vous proposons le compagnonnage de Saint Savin. Bonjour Abbé Benjamin Martin.
Bonjour Anne-Rose, bonjour chers auditeurs.
Voilà, nous avançons dans ce temps de carême et nous voilà avec une nouvelle figure de saint, Saint Savin, pour nous accompagner tout au long de la semaine jusqu'au 5 avril. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette figure de saint? D'abord, où est-ce que nous nous situons dans le temps?
Il y a quelques années, on faisait remonter la vie de Saint Savin aux alentours du 8e siècle, mais quelques études récentes montrent que sa venue parmi nous est beaucoup plus antérieure, on est au 5e ou 6e siècle.
Alors quel est le paysage de l'Église de France à ce moment-là?
Alors l'Église de France, déjà on doit commencer en Espagne, parce que Savin, lui, nous vient de Barcelone. Il nous vient d'une famille sans doute de la noblesse, puisque son oncle chez qui il va se retirer est le comte de Poitiers. Alors sa famille était-elle la famille comtale de Barcelone? En tout cas, il a reçu une très solide éducation. C'est donc l'époque déjà, nous sommes après Saint-Exupère, nous sommes dans un moment où l'Église est relativement en paix et peut du coup se concentrer dans l'approfondissement de la foi, dans l'instauration de ce qu'on avait vu au commencement de la vie de Saint-Exupère, de l'instauration des monastères, de leur école, puisque les monastères avec leur scriptorium vont être vraiment les lieux de transmission du savoir et notamment de l'approfondissement de la foi. Savin a donc une solide éducation, il part à Poitiers. Poitiers, c'est la grande ville de Saint-Hilaire, le grand docteur, le grand compagnon de Saint-Martin. Oui. Et là, il va enseigner et se révéler être un très bon pédagogue, un de ses cousins. Devant tel talent pédagogique, voilà que le comte de Poitiers donne de grandes largesses financières au jeune Savin, qui lui, c'est là déjà un trait de sa spiritualité. Recevant ces largesses de son oncle, il va petit à petit les distribuer aux pauvres. Parce qu'il y a chez Saint Savin une vie chrétienne véritablement vécue et le désir de se donner à Dieu dans la vie religieuse. Peut-être que Savin a accepté de partir à Poitiers parce que non seulement il y a le rayonnement de Saint-Hilaire, mais aussi que non loin de là se trouve un monastère déjà célèbre dans la chrétienté, celui de Ligugé, qui a été fondé par Saint-Martin. Je vous disais au commencement de notre discussion que on pensait que Saint-Savin avait une vie plus tardive et comme à l'abbatiale de Saint-Savin qui porte son nom, ce sont des bénédictins qui s'y sont instaurés, on pensait légitimement que Savin était un fils de Saint-Benoît. Bien sûr, toute cette tradition bénédictine sera à Saint-Martin comme à Ligugé par ailleurs, mais la règle de Saint-Benoît n'était pas encore arrivée au moment où Saint Savin fait sa vie religieuse.
Même si on peut quand même reconnaître des signes dans la vie spirituelle ou dans les désirs de vie spirituelle.
Ah, tout à fait. La vie spirituelle, c'est vraiment dans le désir de Saint Savin, c'est de se donner au Christ au sein de la vie religieuse, d'abord communautaire, vécue à Ligugé. Puis il va se sentir appelé à vivre une vie plus retirée, une vie érémitique. Et c'est là qu'il va se rendre dans ce que nous appelons aujourd'hui Saint-Savin pour véritablement rejoindre à la fois une communauté, parce qu'un disciple de Saint-Martin a commencé à fonder cette vie religieuse, et ce désir de vivre seul, le père abbé va donc le conduire dans ce lieu assez retiré de Poyaspé.
Alors pour nos auditeurs qui ne sont pas tout à fait des Hautes-Pyrénées de la région, Saint-Savin, c'est vraiment dans le Lavedan, au-delà de Lourdes, après Argelès-Gazost, vraiment au pied des montagnes. Alors peut-être qu'on peut faire un parallèle entre ce parcours géographique et puis aussi ce parcours qui se fait dans le cœur de Savin, ce cheminement pour de la vie communautaire jusqu'à cette vie d'ermite, se retirer du monde, ce parcours qui passe par les Pyrénées. Quoi.
Tout à fait. Cette communauté s'est donc installée sur ce lieu qu'on va appeler ensuite Saint-Savin. Il y a donc déjà là une vie religieuse. Le père abbé l'accueille bien volontiers car il y a un point important. Même si on se sent appelé à la vie érémitique, c'est-à-dire à vivre seul à se retirer véritablement du monde. Dans la tradition de l'Église, cela se fait toujours dans l'enracinement d'une vie communautaire. Permettez un exemple. Lorsque j'étais en propédeutique à Rodez, j'étais en insertion à Villefranche de Rouergue. Il se trouve que le curé était le délégué épiscopal pour une communauté d'ermites. Nous avions eu déjà le privilège, nous étions deux, à aller visiter cette communauté. Nous rentrions dans une forêt profonde. Il y avait une barrière, on est venu nous ouvrir la barrière et le premier bâtiment que l'on voyait, c'était une chapelle avec une pièce qui était la salle communautaire et la bibliothèque. Chacun dans la semaine vit dans son petit ermitage seul, mais le dimanche, voilà qu'il se retrouve pour un temps de vie commune et un temps pour célébrer la messe ensemble. C'est ça qui est important et ce qu'on voit aussi dans la vie de Saint-Savin. Certes, Savin a ce désir de la vie érémitique, de se retirer seul, mais on voit que cette solitude est tout de même portée par la vie commune et la vie en l'abbaye de Saint-Savin. D'ailleurs, il y avait des visites régulières entre l'abbaye et Saint-Savin.
Une vie érémitique, ça veut dire une vie coupée du monde, ça veut dire une vie consacrée uniquement à la prière, ça veut dire une vie aussi de pauvreté. Qu'est-ce que ça veut dire au fond ?
Oui, tout à fait. Il y a un dépouillement. La contemplation de la vie publique du Christ donne, je pense, un certain nombre de clés. Il y a dans l'Évangile cet appel à tout quitter pour se mettre à la suite du Christ. Et on voit régulièrement le Seigneur, dans sa vie publique, se retirer, bien souvent sur la hauteur d'une montagne, dans une solitude qui lui permet non seulement de se ressourcer, de se recentrer dans la prière avec le Père et le Saint-Esprit. Et ce lieu de la montagne est aussi symbolique puisque par son sommet, on est plus près du ciel. Donc du coup, il y a, je pense, dans le choix des Pyrénées, peut-être aussi l'attraction de Saint-Justin qui s'était sans doute retiré en Pays Toy. Il y a ce désir de se donner au Christ dans une vie qui va être séparé de la communauté des hommes. Il va donc vivre une vie de pénitence, c'est-à-dire que le confort sera des plus sommaires. Il va vivre ce que nous vivons dans le temps du carême de façon beaucoup plus large, pas seulement pendant 40 jours, mais pendant toute sa vie, dans les jeûnes, dans la prière. Alors de fait, il est isolé, pourrions-nous dire, et il est seul, mais le peuple de Dieu, lui, sait qu'il y a le Saint-Ermite. Et même s'il est seul et si le lieu est difficilement accessible, on vient rencontrer le Saint-Ermite.
Ça veut dire que déjà, il y a une sorte de rayonnement de cette figure de saint, de son vécu, de son vivant.
De son vivant, un rayonnement de sa sainteté ou peut-être de la forme de sainteté de sa vie. Voilà un homme qui a tout quitté pour suivre le Christ, voilà un homme qui jeûne, voilà un homme qui est dans la prière, il incarne donc l'homme du combat spirituel, il est comme le Christ au désert.
Une sorte de modèle.
C'est vraiment le modèle. Vous savez, c'est l'éclosion de la vie monastique. Oui. L'idéal, c'est vraiment cet idéal-là. On a toujours dans la pensée de l'Église l'idéal des pères au désert, en Égypte, qui ont commencé cette vie érémitique, nous en avions parlé. Et là, on a quand même ce héros de la foi, Saint Savin, qui vit à l'écart. On vient lui demander conseil. On vient lui demander aussi de prier ou d'obtenir déjà des guérisons. On le dit thaumaturge, c'est-à-dire il touche et voilà que la personne est guérie par l'intermédiaire de Dieu, bien évidemment.
Il y a des traces écrites de ça, des témoignages ?
Alors il y a des témoignages, notamment deux très beaux tableaux dans la abbatiale de Saint-Savin qui relatent un certain nombre de faits, de guérisons, qui manifestent bien que même s'il est isolé, de sa communauté, mais également du reste du monde, on vient le chercher pour avoir justement déjà cet ami, cet intercesseur de Dieu. La sainteté de sa vie fait que pour s'adresser au bon Dieu, voilà que c'est comme une autoroute.
C'est déjà la communion des saints.
Oui, tout à fait, c'est la communion des saints. Les moines et moniales dans nos monastères, ils anticipent la vie du monde à venir. C'est-à-dire ils anticipent l'état dans lequel nous serons au ciel. Nous serons non plus habités par la foi, mais par la vision de Dieu. Et donc du coup, dans cette vie retirée, dans cette vie cachée, dans cette vie de prière, voilà que déjà, il donne à voir cette contemplation de Dieu.
Et aujourd'hui, pour marquer notre pèlerinage ou notre prière à Saint-Savin, on peut se rendre sur les lieux, à Saint-Savin même, à l'abbatiale ou à Poyaspe, précisément là où il a vécu sa vie d'ermite pendant plusieurs années jusqu'à sa mort.
Jusqu'à l'âge de 40 ans. où Savin est rappelé à Dieu, ça paraît très jeune, mais l'usure de son corps en raison des pénitences, en raison du manque de sommeil, etc., fait que sa vie a été brève. Mais ce qui a été bref est resté dans le peuple de Dieu comme un attachement justement à cette figure de sainteté. Son tombeau est l'autel de l'abbatiale de Saint-Savin. C'est une magnifique abbatiale qu'il faut absolument découvrir. Il y a son orgue, il y a tout un tas de choses absolument splendides, mais on peut également, vous avez raison, se rendre à pied dans ce lieu isolé où Savin a vécu, et une chapelle nous y attend.
Voilà, une figure de saint qui peut vraiment nous accompagner pour cette semaine de carême, et puis que les auditeurs qui le peuvent et qui le souhaitent n'hésitent pas à se rendre vraiment sur les traces de Saint-Savin qui sont quand même facilement accessibles ici dans les Hautes-Pyrénées. Merci Abbé Benjamin Martin, on vous retrouve la semaine prochaine. Nous serons en compagnie de Saint-Vincent de Paul.
Merci à vous chers auditeurs, au revoir.